L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Shannon Seban, une femme politique, mais surtout femme d'engagement, un engagement qui prend ses racines dans l'après 7 octobre et la montée exponentielle de l'antisémitisme avec l'ONG européenne Combat Antisémitisme Movement, dont elle est aujourd'hui la directrice de la branche française. Elle était à Strasbourg, au Parlement européen, pour un point documenté sur la montée de l'antisémitisme en ligne, la puissance des algorithmes et la libération de la parole anti-juive, anti-Israël, sur les réseaux. Shannon Seban, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Écoutez, c'est un plaisir. Vous êtes affiliée chez les Républicains, mais votre engagement va bien au-delà de cet engagement politique. Vous vous êtes découverte, vous, juive, comme beaucoup d'ailleurs, après le 7 octobre.
Écoutez, c'est une bonne question, mais en réalité, vous savez, je crois que je me suis toujours considérée comme juive parce que cela fait partie de mon identité. Par contre, une chose est sûre, je crois que c'est quand votre identité est attaquée que vous ressentez ensuite un besoin viscéral que de la revendiquer. Moi, j'ai été la cible d'attaques antisémites avant le 7 octobre 2023, cela remonte à juillet 2023 quand on m'avait ciblé pour mon nez menaçant de juive. On avait dit que j'étais une traînée séfarade et j'en passe. Et j'avais porté plainte, j'ai gagné, donc je suis contente après 2 ans de procès. Mais après le 7 octobre, effectivement, quand j'avais décidé de me présenter aux élections législatives face à Mathilde Panot dans le 94, dans son département, le Val-de-Marne, là j'ai été attaquée au cri de « dégage sale sioniste », le nouveau visage de antisémitisme, si je puis dire, quand on voit bien que le mot sioniste a en réalité remplacé le mot juif. Et donc derrière ce sale sioniste se cachait en réalité un sale juif. Donc j'ai porté plainte là encore. Mais oui, après le 7 octobre, il ne pouvait pas en être autrement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé effectivement de lutter contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre toutes les formes de haine et de discrimination au quotidien. J'en ai fait effectivement mon combat quotidien.
Alors vous portez justement votre message comme un combat, vous le disiez. Comment entendez-vous la violence des propos antisémites en ligne et qui plus est sont dirigés contre vous? Alors je parle de votre mur Facebook comme témoin.
Vous savez, moi ce que je dis beaucoup, c'est que j'ai décidé aujourd'hui de faire de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et toutes les formes de discrimination mon combat. Mais il y a une réalité. La première attaque antisémite dont j'ai été victime de façon très violente, c'est une attaque en ligne qui remonte à juillet 2023. Un certain néo-nazi qui, sur les réseaux sociaux, notamment sur son site internet, avait décidé de dire que j'avais un nez meurtrier, menaçant de juifs, etc. Et ça a été une attaque en ligne. Et la réalité, c'est que son site, on a réussi à le faire fermer, grâce à Pharos en France, mais quelques minutes plus tard, ce petit malin avait réussi à réouvrir un autre site internet via un autre nom de domaine. Et cet individu, il s'avère qu'il est retranché au Japon. C'est un Français qui a fui lâchement ses responsabilités au Japon. Ça montre bien une chose, c'est que la haine en ligne n'a pas de frontières. N'a pas de frontières. Que je sois en France, au Japon, aux États-Unis, en Australie, à Vienne, en Autriche, où que je sois dans le monde, la haine n'a pas de frontières. Et c'est le message aujourd'hui que je veux passer. C'est que ça doit devenir aujourd'hui une priorité absolue. La lutte contre la haine en ligne doit devenir une priorité absolue, tout simplement parce qu'elle n'a pas de frontières et parce que ce qui se passe hors ligne a souvent des répercussions dans la vie réelle, sur le terrain, hors ligne.
Je vous propose d'écouter une annonce de la députée européenne Céline Imart, qui était au Parlement européen jeudi dernier et qui a fait une annonce justement pour faire de Pharos, le modèle français, un modèle européen. Je vous propose de l'écouter.
Le constat est très très clair. Nous avons aujourd'hui travaillé sur des graphiques, sur des faits répertoriés, sur les faits de ce qui se passe en Europe. La montée de l'antisémitisme et des faits de violence, non seulement en ligne, mais aussi physique, est en nette hausse. La France dispose avec Pharos d'un outil de signalement efficace aujourd'hui, qui est piloté par des policiers, par des gendarmes, par des forces de l'ordre spécialisées. Et donc, il serait temps que chaque État membre se dote d'un dispositif équivalent et surtout que ces plateformes nationales soient enfin coordonnées à l'échelle européenne. Je vais saisir en tant que parlementaire européenne pour lui demander la création d'un réseau européen de coordination contre le racisme et l'antisémitisme en ligne. Parce que s'il n'y a pas cette mise en réseau, chaque pays continuera d'agir en ordre dispersé face à des contenus qui, eux, circulent impunément sur tout le continent. Protéger nos concitoyens de la haine en ligne exige des outils qui seront à la hauteur du problème. Donc c'est un enjeu à la fois de sécurité, bien sûr, mais aussi de dignité et de souveraineté numérique européenne.
Alors justement, aujourd'hui, cet outil, Pharos, est-ce qu'il a des équivalents européens dans d'autres pays ou peut-être même hors Europe?
Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que pour lutter contre la haine en ligne, notamment à l'échelle européenne, on a aujourd'hui un outil qui a été lancé par la Commission européenne qui s'appelle le Digital Services Act. C'est un règlement qui impose aux grandes plateformes une certaine responsabilité pour prévenir la diffusion de contenus haineux en ligne et pouvoir ensuite les retirer de façon efficace. La réalité, c'est que l'efficacité de ce règlement est malheureusement limitée. Donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place, et nous avons donc saisi la Commission européenne avec Céline Imar, de mettre en place un réseau qui s'appelle donc le réseau CNORA, Coordination Networks Against Online Racism and Antisemitism, qui propose un système très simple. C'est un réseau qui permettra de mettre en place un système similaire à Pharos en France, qui est rattaché au ministère de l'Intérieur, donc avec des policiers et des gendarmes, et de faire en sorte que chaque État membre de l'Union européenne, donc chacun des 27 États membres de l'Union européenne, puisse se doter d'une plateforme de signalement similaire. Et ensuite, dans un deuxième temps, de mettre en lien, de faire en sorte que ces différentes plateformes nationales se mettent en lien à l'échelle européenne pour avoir surtout un partage des réponses et un partage des problématiques et un partage des signalements. Parce que, comme je vous le disais, la haine n'a pas de frontières. Ce que nous voyons au sein du Combat Antisémitism Movement, où nous avons un centre de recherche, c'est que vous avez aujourd'hui un nouveau défi qui se pose à nous en ce qui concerne la lutte contre la haine en ligne, qui est posé par la propagation de la haine en ligne et l'amplification des contenus en ligne qui sont liés aux algorithmes des réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a beaucoup de bénéfices. Moi, je l'utilise au quotidien et je crois qu'il faut aussi pouvoir évoluer avec notre temps, mais il faut aussi pouvoir réguler les désavantages, les inconvénients, si je puis dire, de cette intelligence artificielle. Et donc, il ne s'agit pas d'avancer en bloc et de créer un rapport de force avec l'IA ou avec les algorithmes qui sont générés par ces grandes plateformes. C'est peine perdue. Soyons pragmatiques. Il faut aujourd'hui permettre de doter l'Union européenne des outils pour faire en sorte de savoir réagir face à ces biais algorithmiques qui existent sur les réseaux sociaux, comme nous avons pu le documenter avec des études très sérieuses qui sont disponibles grâce à notre centre de recherche du Combat Antisémitism Movement. Je peux vous en citer une ici. On a pu démanteler, sur TikTok notamment, un réseau coordonnées, écoutez bien, de faux rabbins qui étaient générés par l'intelligence artificielle avec des millions de followers, avec des millions de likes et qui diffusaient des contenus antisémites. Donc c'est-à-dire qu'on a utilisé l'image d'un rabbin pour diffuser des contenus antisémites. Pareil sur Instagram, on s'est rendu compte que vous aviez certains comptes, des comptes de bien-être, des comptes de fitness, qui vous redirigeaient automatiquement grâce à des biais algorithmiques sur des contenus antisémites. Il y a un problème. Et face à ça, il faut une réponse efficace, ferme et ne rien laisser passer. D'où le réseau CNORA que nous proposons de créer.
Et le gendarme du net, aujourd'hui, ça devient le citoyen. Pharos, ça fonctionne comme ça. Vous signalez quand il y a un propos haineux en ligne. Ce sera la même chose.
Pharos, très honnêtement, c'est un système qui fonctionne à l'échelle européenne. Vous savez, quand j'ai été victime de cette première attaque antisémite en ligne en juillet 2023, à titre personnel, j'en suis la preuve vivante, si je puis dire, j'ai saisi Pharos et le site internet de cet individu a été très rapidement retiré. Il a ensuite ouvert avec un autre nom de domaine, c'est encore un autre problème. Mais Pharos fonctionne parce que c'est rattaché au ministère de l'Intérieur, parce que derrière vous avez des policiers et des gendarmes qui sont spécifiquement formés pour répondre à la haine en ligne et pour identifier de tels contenus. Donc ils savent très bien comment ça fonctionne. Pourquoi pas de dupliquer ce modèle à l'échelle européenne ? Vous avez aujourd'hui 27 États membres au sein de l'Union européenne. Nous avons aujourd'hui le pouvoir de lutter et surtout le devoir de pouvoir répondre efficacement face à cela. Parce qu'ensuite, ce sont des conséquences qui sont palpables dans la vie réelle. La lutte aussi également contre l'anonymat. Moi, j'y suis favorable. On ne peut pas se permettre d'avoir Jean-Robert 4202 qui continue à déverser de façon en toute impunité des contenus haineux en ligne. Ça a un impact. On le voit bien sur la santé mentale de nos jeunes. Donc aujourd'hui, ça doit être une priorité absolue.
moins d'un an des présidentielles. Aujourd'hui, il y a des enjeux politiques. Aujourd'hui, dans cette communication, la haine anti-juive, évidemment, la haine, j'allais dire, l'antisionisme qui continue aujourd'hui à se cacher derrière cet antisémitisme. Il y a quelque chose aujourd'hui de très fourbe et de très vicieux. Mais aujourd'hui, à un an des présidentielles, il y a des intérêts par certains candidats de continuer à alimenter cette haine.
De façon évidente, oui, bien évidemment. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en France, on a une certaine polarisation de la vie politique avec certains partis politiques qui jouent sur la fracturation identitaire. Et vous avez notamment un parti politique qui tient en trois lettres, la France Insoumise, qui a décidé de faire de la haine, notamment des Juifs, son carburant électoral. Je trouve cela absolument cynique, mais c'est surtout un aveu faiblesse. Ça veut dire que ce parti politique aujourd'hui ne sait pas convaincre par autre chose que par le clientélisme électoral, en parlant de Gaza du matin au soir et surtout en alimentant un antisionisme qui cache un antisémitisme viscéral. C'est ça la réalité. Et donc oui, la France insoumise chasse aujourd'hui en meute, notamment sur les réseaux sociaux. On voit bien que pas un seul jour ne passe sans un tweet qui flirte avec l'antisémitisme, et c'est ici un euphémisme, et je trouve cela absolument préoccupant. Donc il y a un enjeu aussi démocratique derrière tout cela, c'est qu'on ne peut pas laisser prospérer ce clientélisme électoral en toute impunité. Alors oui, ces personnes-là sont parfois élues démocratiquement, ils sont même élus démocratiquement, comme c'est le cas des élus La France Insoumise au Parlement européen, ou encore à l'Assemblée nationale, ou dans nos communes.
Et pour l'instant, ils n'ont pas encore de condamnation.
Et c'est très grave. Et c'est très grave. Et moi, quand je me lève chaque matin, j'ai aussi pour priorité absolue de protéger notre démocratie, de protéger nos valeurs républicaines, et de faire en sorte que ces personnes-là qui sont élues démocratiquement ne sapent pas nos valeurs démocratiques.
Justement, alors on parle souvent de majorité silencieuse, hein, à l'inverse justement de la France insoumise. Est-ce qu'il y a un consensus des groupes politiques, mis à part l'extrême gauche, on vient de le dire, concernant déjà ce programme du 7 octobre, est-ce que aujourd'hui, vous, dans les bruits de couloir au Parlement européen, ou quand vous faites des interventions, vous avez ce sentiment-là? On a besoin aussi aujourd'hui, peut-être, d'être rassuré et de se dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une vague d'antisémitisme, qu'il y a aussi une majorité silencieuse qui a peur aujourd'hui face à la montée de l'islamisme radical, par exemple, et qui ne dit rien. Dites-nous ce que vous en pensez.
J'en suis absolument convaincue, et je vais vous-même vous dire aujourd'hui qu'effectivement, vous avez une majorité silencieuse qui ne prend pas toujours la parole publiquement, mais qui existe. Et on parle bien de majorité silencieuse. De l'autre côté, vous avez une minorité bruyante qui, elle, alimente le chaos institutionnel, le chaos dans la rue, le chaos sur les réseaux sociaux, la remise en cause de notre état de droit, la remise en cause de l'indépendance des médias, la remise en cause de la pluralité des médias, qui a en quelque sorte un certain biais ou un amour pour tout ce qui relève de la dictature. Mais ce que je veux dire, c'est que la France n'est pas un pays antisémite. Fort heureusement, vous n'avez pas un antisémitisme d'État en France. Vous avez des antisémites, vous avez des racistes, vous avez des personnes qui sont homophobes, malheureusement, mais la France n'est pas foncièrement un pays antisémite, raciste ou homophobe. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. En revanche, il faut lutter contre ces ennemis de l'intérieur qui, eux, sapent nos valeurs démocratiques. Et ça, c'est important. Et à partir du moment où nous sommes tous unis dans ce combat, j'en suis convaincue, tout est possible. Mon rôle en tant que politique, mon rôle en tant que militante et activiste, c'est de faire en sorte de bouger les lignes et de donner à ces personnes-là, cette majorité silencieuse, les moyens d'élever la voix, d'élever leur voix, de faire entendre leur voix. C'est un combat quotidien, mais je crois qu'il est encore possible de faire bouger les lignes, et vous avez en tout cas ici toute ma détermination et mon engagement à mettre toute mon énergie au service de ce combat.
Et aujourd'hui, la tentation du vote RN, extrême droite, pour une partie de la communauté juive. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne suis pas à l'aise avec ce choix-là, pour être tout à fait transparente, même si parfois je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Tout simplement parce que par contraste, vous avez aujourd'hui un parti politique qui est la France Insoumise, qui normalise le Rassemblement National. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que, ayant été à titre personnel victime d'antisémitisme, à la fois d'un néo-nazi d'extrême droite qui se revendiquait comme tel, et à la fois d'un antisémitisme d'extrême gauche, qui est celui de l'antisionisme de la France Insoumise et de tous ces partis de gauche qui sont soumis à la France Insoumise, je ne peux pas aujourd'hui soutenir ce parti politique. Je ne critique pas leurs électeurs, je respecte les électeurs du Rassemblement National comme de tout autre parti politique d'ailleurs, mais je crois qu'il existe encore une troisième voie, qui est celui de la droite républicaine, que j'ai choisi de rejoindre après des années en Macronie. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Hein. J'ai rejoint aujourd'hui les Républicains, je suis secrétaire nationale du parti en charge de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, et je suis déterminée à prouver que nous pouvons aujourd'hui incarner la voix d'une droite républicaine, fière de ses valeurs, fière de nos valeurs françaises, mais qui est ferme sur les sujets du régalien.
Hormis le message politique que vous venez aujourd'hui là de nous donner, comment est-ce qu'on peut faire ruisseler le message justement à certaines strates de la population qui sont certainement manipulées? Vous parliez d'algorithmes et des réseaux sociaux. On sait aujourd'hui que le terme génocide a été démenti par des grandes instances internationales. Absolument. Et pourtant, c'est pas entendu. C'est quelque chose qui est mis en avant quotidiennement sur les réseaux sociaux et dans les discours des politiques qui s'en servent pour attiser cet antisémitisme et cet antisionisme. Comment est-ce qu'on peut faire ruisseler le message en allant peut-être dans les universités? Comment est-ce qu'aujourd'hui, deux mondes qui ne peuvent plus se parler, où c'est compliqué, on peut les faire se rencontrer?
Oui, vous avez raison. Et puis, je crois qu'on a aujourd'hui ce devoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que tout est joué d'avance et que malheureusement, on ne peut plus rien faire face à la haine, quelle qu'elle soit d'ailleurs en ligne ou hors ligne. Je crois qu'il y a aujourd'hui un devoir qui est celui d'éduquer. D'éduquer. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'éducation et je crois que la lutte contre l'antisémitisme, elle repose à la fois sur deux piliers de façon très schématique, l'éducation et la justice. Une justice forte et une éducation forte qui ne laisse rien passer. Si vous avez déjà ces deux piliers-là qui sont consolidés et qui communiquent, on peut réussir à faire beaucoup de choses. Mais il faut pouvoir aujourd'hui déconstruire ces préjugés, dire que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, ce n'est pas un génocide. Le génocide des Tutsis au Rwanda, oui. Le génocide de millions de juifs, de tziganes, d'homosexuels pendant la Shoah, oui. Ça, oui. Ça a été une industrialisation à vitesse, mais grand V, et à échelle.
Dès le 8 octobre.
Voilà, et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Les mots ont un sens. Et si aujourd'hui, nous banalisons l'utilisation de tels mots quand on parle de génocide, etc., c'est banaliser la mémoire des victimes. C'est abject. Donc faisons attention aux mots, mais oui, il y a un devoir d'éducation et je crois qu'il faut le rappeler inlassablement.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut critiquer, comme c'est fait de l'intérieur en Israël, est-ce qu'on peut critiquer la politique israélienne?
Ah oui, et j'y suis profondément attachée. J'y suis profondément attachée. Il est aujourd'hui essentiel de rappeler de façon inlassable et inlassablement qu'on peut ne pas être d'accord avec la politique qui est menée par M. Netanyahou en Israël, mais qu'on peut lutter contre l'antisémitisme dans le même temps. Enfin, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et tant qu'on continuera à plonger dans l'amalgame volontairement, tel que le fait la France insoumise, on n'en sortira pas. Encore une fois, on peut lutter avec détermination et avec fermeté contre l'antisémitisme et critiquer la politique qui est menée par le gouvernement de M. Netanyahou en Israël. Ce sont deux choses complètement différentes.
Et c'est propre à une démocratie.
Et c'est propre à une démocratie, fort heureusement.
Shannon Seban, merci infiniment d'être passée nous
merci
voir.
Merci à vous.
Évidemment, c'était très court. Je rappelle le titre de votre livre, « Française, juive et alors ?» C'est le combat d'une femme engagée pour la République. C'est aux éditions de l'Observatoire. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir pour parler de ce livre. En attendant, moi j'aimerais juste un mot de conclusion. Vous, votre regard sur l'avenir, vous restez optimiste. Vous me parlez, on vous sent très engagée et vous restez souriante. Vous avez aujourd'hui un combat à mener, mais on sent quand même que vous avez foi en l'avenir. C'est quoi justement ce regard sur l'avenir?
Merci de me donner l'opportunité de terminer par quelques notes d'optimisme. Moi, je vais terminer par deux phrases qui me guident souvent. La première, c'est ne rien laisser passer, parce que je crois qu'à partir du moment où on décide de garder le silence face à quelque chose d'abject, face à un propos raciste, face à un propos antisémite, c'est une façon de cautionner. Et puis ensuite, de dire que c'est quand c'est difficile qu'il faut rester. Et je terminerai sur cette phrase-là, c'est quand c'est difficile qu'il faut rester à bonne entendeur. En tout cas, la note d'optimisme que je suis venue passer, c'est que voilà, je mettrai toujours, toujours, mon énergie au combat des valeurs qui sont les miennes, qui sont nos valeurs de la République, pour lutter contre l'antisémitisme, le racisme et éradiquer une bonne fois pour toutes ce fléau. Merci encore de votre invitation.
Shannon Seban, merci beaucoup.
Merci.